L'agronomie sans souci, le rendez-vous audio de Cultivar, proposé et présenté par Hélène Sauvage, rédactrice en chef, et Mathieu Lecourtier, chef de la rubrique agronomique. L'agronomie est parfois perçue comme complexe et obscure. Pourtant, elle est au cœur des solutions pour bâtir des écosystèmes durables et résilients. L'agronomie, ce n'est pas un souci, ni un défi, c'est un outil.
Bonjour à tous, bonjour Mathieu, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, nous allons parler santé des plantes à travers le suivi du potentiel redox. Mathieu, pourquoi ce sujet ?
Bonjour Hélène, le potentiel d'oxydoréduction était jusqu'à présent réservé aux scientifiques, car les mesures demandaient beaucoup de temps et de méthodes. Désormais, un outil de mesure par spectrométrie existe, il s'agit du Food Scanner. Il facilite beaucoup les mesures, mais avant de l'acheter, encore faut-il savoir à quoi correspond le potentiel redox pour les plantes et comment utiliser les résultats des mesures.
Oh là là, Mathieu, t'es sûr qu'on va réussir à parler d'agriculture, là ?
Alors, on va y aller pas à pas avec Olivier Husson, qui est chercheur au CIRAD, et Martha Rollet, agronome au sein d'AgroLigue. Pour commencer, Olivier nous aide à comprendre ce qu'est le potentiel redox.
Alors, le potentiel redox, ça mesure en quelque sorte la disponibilité des électrons. Alors, comme le pH mesure la facilité avec laquelle les protons vont pouvoir être pris ou donnés, le potentiel redox, ça mesure pour les électrons. On mesure une différence de potentiel en millivolts. C'est de la physique, hein, c'est de l'électricité derrière. Plus il est élevé, en fait, plus le milieu va garder ses électrons, le milieu est oxydé au sens de l'électrochimie, c'est-à-dire au sens il aura peu d'électrons à donner. Et plus le potentiel qu'on mesure est bas, plus il y aura d'électrons qui seront facilement donnés. La différence avec le pH, c'est que des ions H+, ils sont quasiment libres, ils sont juste liés à l'eau avec H3O+. Les électrons, en fait, il n'y a pas d'électrons libres dans une solution, ils s'échangent d'une molécule à une autre ou d'un ion à un autre.
Dis donc Mathieu, ça va être comme ça pendant 15 minutes ? J'ai besoin d'aller chercher mes cours de chimie ?
Non, t'inquiète pas Hélène, Martha résume très bien les choses en quelques mots.
Juste pour résumer, en fait, quand il dit potentiel redox bas, il suffit de se dire voltage bas, j'ai beaucoup d'électrons disponibles, voltage élevé, j'en ai peu.
Olivier parle de potentiel redox, il parle aussi de pH, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Alors, la mesure du potentiel redox sans celle du pH n'a absolument aucun sens. Il faut garder en tête qu'à pH 7, la neutralité électrique est environ entre 400 et 410 millivolts. Comme c'est la plante qui nous intéresse, elle apporte beaucoup d'énergie au système, elle est donc plus riche en électrons disponibles, donc sa valeur de redox est forcément plus faible. Je te propose d'écouter Olivier pour plus de détails.
La plante, c'est une pile à hydrogène, en fait. La première réaction de la photosynthèse, c'est de casser l'eau en hydrogène et en oxygène. Donc ça prend l'énergie de la lumière, les photons, et ça fait une hydrolyse, ça casse l'eau en... une photolyse de l'eau, en fait, en hydrogène et oxygène. Après, ça dégaze l'oxygène et ça conserve l'énergie, en fait, à travers l'hydrogène, qui est le carburant. Comme c'est un carburant un peu trop explosif, la plante, eh ben, elle va accrocher l'hydrogène à du carbone. Donc, c'est la deuxième étape de la photosynthèse, c'est j'accroche de l'hydrogène au carbone. Donc, en fait, l'hydrogène, c'est la réserve d'énergie de la plante. Et l'hydrogène, c'est un proton plus un électron. Donc, en fait, en mesurant le pH et le potentiel redox, on a une évaluation de la réserve en énergie de la plante. Et après, cette énergie, ben, elle en aura ou elle en aura moins. Et en fonction de ce qu'elle a, elle va le répartir en fonction des stress, des conditions du milieu, plus elle en a, plus elle va pouvoir pousser, plus elle va pouvoir se protéger, plus elle va pouvoir nourrir des micro-organismes qui vont remplir certaines fonctions aussi, qui vont l'aider. Donc voilà, en gros, le pH plus redox, ça nous donne le niveau d'énergie de la plante, qui est concentré sous forme proton et électron. En fonction du niveau d'énergie de la plante, elle va pouvoir pousser et donc être capable de produire de plus en plus d'énergie, enfin de capter de plus en plus d'énergie. Elle ne le produit pas, elle la transforme. Et voilà, plus elle en a, plus elle peut pousser, plus elle peut pousser, plus elle en a, et plus elle en a, plus elle peut se protéger aussi, équilibrer, nourrir, modifier le milieu, au niveau de la rhizosphère en particulier. En gros, c'est une bonne mesure de l'énergie disponible, et cette énergie, elle va servir à pousser ou à modifier le milieu ou à nourrir des micro-organismes ou à se protéger contre les pathogènes.
Mathieu, j'ai l'impression, en écoutant Olivier, que via ce type de mesure, on est capable d'avoir énormément d'informations sur l'état de la plante.
Ah, mais tu as une très bonne impression. Le potentiel redox évolue très rapidement dans la plante lors d'un stress ou d'une intervention. Il faut compter à peine 2 heures pour voir le changement. Martin et Olivier donnent de nombreux exemples d'ailleurs.
On peut regarder l'effet d'une pratique, quelle qu'elle soit. Ça peut être un passage de phyto, ça peut être un passage de macération de produits alternatifs, ça peut être un rognage pour la vigne. En gros, ça prend la température de la plante. On prend la température et la tension de la plante et ça nous dit un peu son état de forme, si elle est en train de réagir ou pas, les stress différents.
Ça a deux intérêts. Déjà, un intérêt fondamental pour la recherche fondamentale, c'est que ça permet de comprendre pourquoi les plantes tombent malades. Donc ça, c'est intéressant. La conjonction, je veux dire, de plantes qui ont baissé la garde et la présence d'une pression pathogène, quoi. Et donc, ça nous permettra à terme de comprendre pourquoi les plantes tombent malades et donc d'adapter les pratiques et dire, OK, ces pratiques sont moins stressantes, donc je vais les favoriser. Tel ou tel phyto est plus efficace et moins stressant pour la plante, donc je vais le favoriser. Et ensuite, de manière pratico-pratique sur le terrain, ça nous permet de valider des essais, c'est-à-dire est-ce que j'ai mis un herbicide, j'ai mis deux matières actives qui ont la même efficacité sur la dentite recherchée, lequel des deux herbicides a le plus stressé ma culture? Il y a des biostimulants qui marchent pas du tout, il y en a quelques-uns qui marchent, et donc ça permet de voir lesquels marchent en fait. J'ai mes pulvérisations, si j'ai un effet redox, c'est que ça fait quelque chose, si j'ai pas d'effet redox, c'est que ça n'a rien fait. Et ça permet de discriminer les différents produits entre eux. Autre exemple, sur le sujet des oligos, on sait que les oligos, par exemple le manganèse, ils passent par voie foliaire sous sa forme réduite, donc Mn2+. Et le problème, c'est que quand on les a dans le tank, c'est bon, dans le pulvé. Par contre, quand ça passe par la buse, ça oxygène. Donc, qui dit oxygène dit oxydation. On passe sous la forme de manganèse oxydé, qui donc n'est plus disponible. Et donc là, ce qu'on a pu voir avec la méthode redox, c'est qu'on a mesuré le redox et le pH, et on sait que le manganèse sous forme Mn2+, pour des coordonnées redox pH précises. Dès qu'on s'éloigne de ces valeurs-là, il est plus biodisponible. Donc là, c'est pas secret, il suffit de taper diagramme de Pourbaix manganèse et vous verrez que c'est à redox bas et pH bas que c'est disponible. Et donc l'idée, c'est que ça reste redox bas et pH bas après le passage par la buse, donc après pulvérisation. Et ça se fait en ajoutant des réducteurs avec le manganèse, type acide oxalique, acide citrique ou vitamine C.
Et en évitant les méthodes de pulvérisation qui suroxydent.
Je comprends bien que chaque intervention est susceptible d'interférer sur le potentiel redox. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que la plante elle-même, de façon intrinsèque, peut modifier son propre potentiel redox?
Oui, c'est justement l'intérêt du potentiel redox. Il lie le statut d'oxydoréduction d'une plante à son statut sanitaire. Olivier propose une explication des mécanismes qui entrent en jeu.
La réaction naturelle de la plante quand elle se fait attaquer, c'est parce qu'elle n'a pas assez d'énergie pour contrôler par réduction. Donc, sa réaction, ça va être de tuer par suroxydation. Donc, elle tue localement, c'est ces marques marron, noir autour des champignons. C'est la plante qui envoie de l'eau oxygénée, qui tue localement les champignons, qui cernent, qui sacrifient des cellules. Beaucoup de produits phytocuratifs qui vont l'accompagner pour faire ça, qui vont l'aider à tuer le pathogène par suroxydation.
Mathieu, tu peux nous résumer en quelques points les grandes familles de solutions et leur pouvoir sur le potentiel redox?
Il y a 4 grandes familles de produits si on se place d'un point de vue redox. Il existe des produits qui aident la plante à se suroxyder. C'est notamment le cas des fongicides le plus souvent. D'autres vont apporter directement des électrons, donc de l'énergie, donc participer à la réduction de la plante. C'est le cas de la vitamine C ou des macérations. D'autres encore améliorent la photosynthèse de la plante par une meilleure alimentation, donc l'aident à gagner de l'énergie sous forme d'électrons. Et puis certains produits créent un léger stress oxydatif, simulant une attaque imminente. La plante va alors consacrer moins d'énergie à sa croissance et davantage à sa défense par réduction. C'est le cas du cuivre.
Bon alors maintenant, Mathieu, j'aimerais savoir comment on mesure et est-ce que c'est accessible pour l'agriculteur ?
En intro, je te disais qu'un nouvel outil permet désormais de faire des mesures à grande échelle. Martin va nous expliquer ô combien c'était difficile avant et Olivier nous présenter le dernier outil, le Food Scanner.
Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des électrodes d'électrochimie, donc une électrode qui mesure le redox et une électrode qui fait le zéro. C'est-à-dire qu'on mesure l'électrode qui fait le zéro et on mesure comparé à cette électrode, en fait, tout simplement. À ça, il nous faut un gros pH mètre, un boîtier assez costaud. Il faut avoir une espèce de ponce à lin entre les électrodes et la feuille, donc assez compliqué comme ça à décrire. Et il faut faire attention à pas être trop près des lignes électriques. Donc c'est contraignant parce que bah il y a des lignes électriques qui passent partout en France. Et après c'est très très loin à mesurer. Pour vous donner un ordre d'idée, avec ça on peut faire 6 mesures à l'heure. Pour comparer deux modalités entre elles, il faut à peu près 10 mesures par modalité. Donc si on veut faire 3 modalités, il y a pas le choix, c'est une journée de travail. Donc beaucoup trop lourd à faire pour un agriculteur. L'intérêt avec le Food Scanner, c'est que on fait mieux que 6 mesures à l'heure, on fait une mesure tous les 30 secondes. Et donc là, on est un peu plus sur un fonctionnement type N-tester où on pince des feuilles à la suite.
Première chose, bah, c'était d'avoir une capacité de mesurer facilement. Maintenant qu'on peut mesurer facilement, on est en train d'engranger des données. Et puis chacun va pouvoir le faire. L'idée, c'est de structurer un peu ces données pour pouvoir arriver à avoir plus rapidement possible des informations techniques pratiques pour donner des conditions d'équilibre qu'on va rechercher en fonction des espèces, en fonction des conditions de milieu, des climats, des sols. On va pouvoir développer tout ça, mais surtout comprendre comment les plantes réagissent à toutes les pratiques qu'on peut avoir et du coup ben, pouvoir réagir de manière intelligente, pas en devinant, pas en essayant de supposer que, mais en ayant une mesure qui nous dit bon, là on est dans des conditions déséquilibrées dans ce sens-là, il faut appliquer ce genre de produit-là qui va permettre de rééquilibrer.
Merci Mathieu de nous avoir aidé à débroussailler un petit peu ce sujet. J'espère que le potentiel redox n'est plus un souci pour vous.
Et on remercie surtout Olivier Husson et Martin Rollet pour leur participation. Et moi, je vous invite à lire le dossier du numéro d'avril 2022 de Cultivar.
Super, c'est noté. Salut Mathieu.
Salut Hélène.
C'était l'Agronomie sans souci, le rendez-vous audio de Cultivar. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site internet cultivar.fr et abonnez-vous au magazine Cultivar. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute à la demande. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux.